cours de théologie fondamentale donné par le père Marie-Dominique Philippe, le 28 novembre 1984, Saint-Joseph.
Ceux qui ont trop de soleil, hein, ils n'ont qu'à se mettre de l'autre côté. Non, ça va. Très bien. C'est parce que le soleil est assez fort. Alors, nous avons vu très rapidement la dernière fois, ça ne demande pas du reste tellement d'explications, comme des choses très intelligentes. Ça touche l'essentiel quand Aristote précise ce que c'est que le mot. Ce que c'est que le verbe. Alors ce que je vous disais, et c'est ça qui me semble important à voir, c'est la référence constante du mot à la pensée et la pensée à la réalité. Donc nous avons ce triangle qu'il ne faut jamais oublier. Nous avons le mot, la parole, se réfère au pâté de l'âme. Et le pâté de l'âme, c'est le concept. Aristote n'aime pas de savoir le pâté de l'âme. Je trouve ça admirable. C'est l'âme qui pâte. Le concept est le même. Et ceci est en référence directe avec la réalité. Pense à la réalité et à l'être. À l'autre. Parce que si vous étiez seul, vous n'auriez pas le besoin de parler, je présume. On éprouve le besoin de parler pour s'assurer. Quand on a peur, on s'encourage. On dit vas-y, vas-y un peu. Et vous vous donnez du courage. Et c'est parce que vous avez peur dans votre sensibilité. Alors votre intelligence veut tenir la chose. Et normalement, c'est pas à l'autre qu'on parle. Donc l'égal, c'est la communication. L'incommunicabilité. Comme on dit aujourd'hui, hein, parce qu'aujourd'hui, c'est les grands thèmes, l'incommunicabilité. Ça me dit un truc sur l'incommunicabilité. Et on doit parler pendant une heure sur l'incommunicabilité. J'ai envie de dire que du fait même qu'on parle, ça prouve qu'il y a quand même quelque chose de communicable. Parce qu'autrement, on se tairait complètement. Alors, la parole est ordonnée à l'autre, la communication. Elle-même se réfère. Donc il y a une double intention, ce qu'Aristote ne note pas. Il y a une double intention dans le légal, l'autre, et la référence au pas, au concept. Maintenant, avec vous, regardez quelque chose de différent, la manière dont Heidegger présente la parole. Alors là, c'est plus long qu'Aristote. Je ne sais pas si vous comprendrez bien, mais c'est intéressant. Je prends extrait les deux extrêmes. Je pourrais prendre, nous reviendrons ensuite au moment du déraillage, pour comprendre la pensée de Heidegger. Parce que vous allez voir que c'est tout à fait autre chose. Pour Aristote, la parole est symbolon. Elle est symbole. Symbolon du pâté. Et le pâté lui-même est signe naturel de la réalité. Tandis que symbolon est symbolon. Il ne dit pas naturel, il précisera que c'est conventionnel. C'est conventionnel, c'est-à-dire artificiel. Le langage n'est pas quelque chose de purement naturel. Le cri est naturel, mais pas le langage. Donc il est symbole conventionnel du pâté qui lui-même se réfère à la réalité. Alors, dans Martin Heidegger, acheminement vers la parole. Je vais vous lire quelques passages. Vous montrer que ce n'est pas commode. L'être humain parle. Nous pouvons éveiller, nous parlons éveillés, nous parlons en rêve. Nous parlons sans cesse, même quand nous ne proférons aucune parole et que nous ne faisons qu'écouter ou lire. Nous parlons même si, n'écoutant plus vraiment, ni ne lisant, nous nous adonnons à un travail, ou bien nous nous adonnons à ne rien faire. Constamment nous parlons, d'une manière ou d'une autre. Nous parlons parce que parler nous est naturel. C'est excellent comme raison. Cela ne provient pas d'une volonté de parler qui serait antérieure à la parole. On dit que l'homme possède la parole par nature. L'enseignement traditionnel veut que l'homme soit, à la différence de la plante et de la bête, le vivant capable de parole. Cette affirmation ne signifie pas seulement qu'à côté d'autres facultés, l'homme possède aussi celle de parler. Elle veut dire que c'est bien la parole qui rend l'homme capable d'être le vivant qu'il est en tant qu'homme. Essayez d'analyser les liens de la causalité de l'effet. L'homme est l'homme en tant qu'il est celui qui parle. Quoi qu'il en soit, la parole a sa place au plus près de l'être humain. Partout se rencontre une parole. C'est pourquoi il ne faut pas s'étonner que l'homme, dès qu'il promène le regard de sa pensée sur ce qui est, trouve aussitôt la parole et aussitôt entreprend, dans une perspective décisive, de l'accorder sur ce qui se montre d'elle. La réflexion tente de se pourvoir d'une représentation de ce qui peut bien être la parole en général. Donc ceci, c'est un petit préambule. Alors on va entrer un peu plus dans le vif du sujet. Et ça va devenir un peu plus difficile. Nous n'aimerions penser que la parole elle-même. Nous voudrions seulement aller à sa suite. La parole elle-même est la parole. Et rien en dehors de cela. Et ça, je crois que très significatif, et tout est là. Selon la tradition qui vient d'Aristote et de Platon, la parole, le legein, se réfère au noein. Et le noein se réfère à la réalité. La réalité seule est substance. Donc, elle se tient par elle-même. La pensée humaine ne se tient pas par elle-même. Elle n'est pas substance. Et la parole est encore moins. Elle se tient encore moins par elle-même. Elle n'est pas substance. Et après la parole, vous avez l'écriture. Parce que si vous ne pouvez pas parler à quelqu'un, vous lui écrivez un petit mot. Enfin, faute de parler, vous écrivez un mot. Et donc, c'est l'écriture. Et l'écriture, c'est une parole figée qui ne répond pas. Alors, je crois que tout est là. C'est ça qu'il faut essayer de saisir. La parole elle-même est la parole. Et rien en dehors de cela. La parole même est la parole. L'entendement mis en condition par la logique, l'entendement qui calcule tout, ce qui le rend en général si sûr de lui, nomme une proposition de ce genre une insignifiante tautologie. Se borner à la répétition, la parole est parole, comment cela peut-il nous mener plus loin ? Mais il ne s'agit pas d'aller plus loin. Nous aimerions seulement tenter d'arriver une fois là même où déjà nous avons séjour. On ne veut pas aller au-delà de la parole, on veut s'installer dans la parole, demeurer dans la parole. Qu'est-ce que c'est que la parole ? C'est pourquoi nous nous arrêtons pour penser à fond. Qu'en est-il de la parole elle-même ? Vous voyez bien tout le procédé de pensée. Et c'est très intéressant de prendre du côté de la parole. On peut le prendre du côté de l'outil. Parce qu'il fera la même chose au point de l'outil. Qu'en est-il de la parole elle-même ? C'est pourquoi nous posons la question, comment la parole vient-elle à être en tant que parole ? Réponse, la parole est parlante. Sérieusement, est-ce là une réponse ? C'en est probablement déjà une. Vous voyez, il y a un petit de dialogue comme pour Platon. Hein, c'est tout à fait le genre. C'en est probablement déjà une. Déjà en effet, si vient au jour ce que veut dire parler. Penser en suivant la parole exige donc que nous allions jusqu'au parler de la parole. Afin, auprès de la parole, c'est-à-dire en son parler, et non dans le nôtre, d'y trouver séjour. Donc quand je vous parle, vous essayez de saisir ce que c'est que le parler, et vous essayez de saisir ce que c'est que la parole, et de demeurer dans la parole. C'est très nettement celui qui reçoit. Alors, toujours Parménide, hein, le dire de la déesse. Ça marquait Heidegger d'une façon étonnante. Et je crois que si on ne voit pas ça, on ne comprend pas. Le dire de la déesse dit l'être, il est. Et c'est une parole. C'est le legale de la et il faut recevoir ce dire. Penser en suivant la parole exige donc que nous allions jusqu'au parler de la parole, afin auprès de la parole, c'est-à-dire en son parler, et non dans le nôtre, d'y trouver séjour. Seulement ainsi, nous pouvons parvenir dans le domaine au sein duquel une attente est comblée ou déçue. L'attente, que ce soit à partir de son déploiement, que la parole s'adresse à nous, en nous adressant son être. C'est à la parole que nous confions ce qu'est parlé. Donc vous confiez à la parole ce qu'est parlé. Nous aimerions ne pas fonder la parole à partir d'autre chose qui ne serait pas elle-même. Nous fondons la parole sur la pensée. Heidegger ne veut pas ça. Fonder la parole sur la pensée, c'est fonder la parole sur quelque chose qui n'est pas la parole, c'est donc s'interdire de comprendre ce que c'est que la parole. Alors vous voyez derrière tout ça, parce qu'il faut essayer de comprendre, derrière tout ça, vous avez blanc-blancheur. L'abstraction formelle permet aux choses d'être regardées pour elles-mêmes. On regarde la parole pour elle-même et en elle-même, exactement comme blancheur. Quand vous dites blanc du mur, vous référez blanc au mur et vous comprenez le blanc en fonction du lien des deux. Tandis que quand vous dites blancheur, vous essayez de comprendre blancheur pour elle-même. C'est à la parole que nous confions ce qu'est parlé. Nous aimerions ne pas fonder la parole à partir d'autre chose qui ne serait pas elle-même, pas plus que nous ne voudrions expliquer autre chose par la parole. La parole n'explique rien, donc quand la parole se réfère à un autre, et vous la définissez par nom, il faut la regarder en elle-même. Alors, vous voyez, c'est assez simple une fois qu'on a compris ce truc. C'est un procédé, hein. C'est un procédé de penser. Bon, vous allez la couper. Vous avez une relation, deux relations, trois relations, quatre relations. À la recouper. Pour avoir la parole pour elle-même et en elle-même. L'écriture, n'en parlons pas parce que c'est pas ça qu'on veut. Il faut la couper de la source et de la réalité. Il faut la couper de la documentation. Elle ne se fonde sur rien et elle ne conduit à rien. Elle est la parole. Alors, on est illuminé. Le 10 août 1784, Amann écrivait à Herder, même aussi éloquent que Démosthène, je ne pourrais pas faire mieux que répéter trois fois un seul et même mot, la raison et parole, logos. Tel est l'os moelleux que je romps et que je me crève à ronger. Tout reste encore obscur pour moi dans ses profondeurs. J'attends encore l'ange d'Apocalypse ayant la clé de cet abîme. Pour Amann, l'abîme consiste en ceci, que la raison est parole. Elle est logos. Amann est renvoyé à la parole lorsqu'il tente de dire ce qu'est la raison. Le regard qui se porte vers la raison tombe dans la profondeur d'un abîme. Cet abîme consiste-t-il seulement en ceci, que la raison repose en la parole, ou bien la parole elle-même n'est-elle autre que l'abîme ? Si vous supprimez le fondement, vous tombez dans l'abîme. Ça, c'est bien évident. Or, vous ne cherchez, vous supprimez le fondement de la parole. Donc, c'est un abîme. Mais ça, c'est aussi très intéressant à voir pour comprendre la pensée de Heidegger. Vous voyez, si on était suffisamment intelligent, un simple texte comme celui-là nous ferait comprendre tout Heidegger. Parce que tout y est, hein. Il y a l'être, il y a la volonté, il y a la parole, il y a le fondement, tout y est. C'est extraordinaire ça. C'est du reste la richesse de Heidegger. C'est que chaque fois qu'il regarde quelque chose, toute sa philosophie y est. Le tout est, la partie implique le tout. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans une analyse philosophique. On est en face d'un, j'allais dire, d'une intuition. Je crois que c'est le genre plutôt d'intuition. Genre intuition comme Platon. Le fondement, normalement, limite. Vous supprimez le fondement, vous tombez dans l'abîme et vous êtes dans l'illimité. Et c'est comme ça que je regarde. Vous voyez, là, il y a un passage très intéressant qui, je crois, nous aide beaucoup à comprendre ça. Donc, cet abîme consiste-t-il seulement en ceci, que la raison repose sur la parole, ou bien la parole elle-même n'est-elle pas autre chose que l'abîme ? Nous parlons d'abîme, là où le fond se perd, là où un fondement nous fait défaut, alors que nous cherchions le fondement et avions pour but de parvenir à un fondement solide. Mais nous ne nous demandons pas maintenant ce qu'est la raison. Nous nous occupons d'emblée de la parole et prenons pour cela comme guide l'étrange locution, c'est la parole qui est parole. Hein ? Réfléchissez pas trop dessus parce que vous deviendriez fou. C'est la parole qui est parole. Vous êtes bien d'accord ? Ben, je crois que c'est... La parole qui parle. Donc c'est la parole qui ne se fonde sur rien d'autre que la parole. Toujours le même procédé, c'est ça. Pour que l'être apparaisse, il faut l'abîme. Et l'être apparaît sur l'abîme. La parole doit apparaître sur l'abîme. Autrement, c'est plus la parole. Oui. C'est chercher, je crois, alors on retrouve ça quelque chose d'analogue avec Platon, c'est chercher l'état natif. L'état de la... premier, c'est l'Immaculée Conception. Oui, chercher l'état natif, la conception initiale, absolument pure, de la parole. Quand la parole a-t-elle été prononcée, ou plus exactement, quand la parole est parole dans son état pur, absolument pur. Vous allez voir, tout est comme ça. Alors évidemment, au bout d'un certain temps, on tourne en rond. Hein, parce que c'est la parole est... Et c'est pour ça que je crois qu'il y a toujours la déesse derrière. Hein, parce que c'est quand même quelque chose d'assez particulier. Donc, c'est la parole qui est parole. Elle ne nous porte pas vers quelque chose d'autre. Bon. Elle ne nous porte pas vers quelque chose d'autre. Parce que ce serait supprimer la parole, ça. Ce serait se mettre relatif à autre chose. Donc la parole ne serait plus un absolu. Ce serait plus la parole, ce serait la parole de Pierre. Ce serait la parole de Pierre pensant. Ça, c'est plus la parole de Pierre pensant. Vous avez relativisé la parole. Elle ne nous porte pas vers quelque chose d'autre. Où se fondrait la parole? Elle ne dit rien non plus qui nous apprennent si la parole elle-même est un fondement pour autre chose. La phrase « c'est la parole qui est parole » nous laisse en suspens, au-dessus d'un abîme. Ça, il aime beaucoup cette position. C'est extraordinaire. Mais... Donc, elle nous laisse en suspens, au-dessus d'un abîme, autant que nous serions endurants à ne pas nous éloigner de ce qu'elle est. La parole est parole. La parole est, deux petits points, parole. C'est pas la même chose que dire la parole est la parole. La parole est parole. Donc on veut la purification la plus grande. La parole est parlante. Si nous nous laissons aller dans l'abîme que nomme cette phrase, nous ne nous perdons pas dans le vide d'une chute. C'est vers le haut que nous sommes jetés. Ah, c'est merveilleux. L'image de la Bible, vous êtes transportés au contraire. C'est quelque chose qui vous attire. Vous montez, vous ne descendez pas. Autrement, ce ne serait pas ça. C'est vers le haut que nous sommes jetés, dont l'altitude seule peut ouvrir une profondeur. Cette hauteur, cette profondeur, toutes deux mesurent de part en part un site. Puissions-nous nous y acclimater afin de trouver le séjour où se déploie l'être de l'homme. L'être de l'homme se déploie dans la parole. C'est l'être de l'homme, c'est ça qui est si extraordinaire pour lui. Pensez en suivant la parole. C'est ce que vous faites quand vous écoutez un cours. Pensez en suivant la parole. C'est ce que disait un cours très difficile du père Gérard Laurier. Alors, un étudiant avait renversé « Je pense, donc je suis ». Et alors, lui disait « Je suis, donc je pense ». Mais il avait renversé « Je suis, j'écoute ce que vous dites. Donc, je suis, donc je pense ». Alors, pensez en suivant la parole. Mais c'est ce qui est dit ici. Je suis la parole. Donc je pense. Donc, pensez en suivant la parole. Cela veut dire parvenir jusqu'au parler qu'est la parole. Et d'une manière telle qu'il advienne en propre et ait lieu comme cela qui accorde séjour à l'existence immortelle. Que veut dire parler ? Rien tout le temps, c'est l'interrogation, hein, n'oubliez pas. La chose suprême de la philosophie, c'est d'interroger. Parce que dès que vous signifiez, vous exprimez une définition, vous n'êtes plus. Il l'a dit tout à l'heure, on interroge parce qu'on est porté vers le haut. Alors, on interroge. On est en suspens. Dès que vous définissez, vous n'êtes plus en suspens, vous êtes assis. Bourgeoisement assis. N'est-ce pas ? Tandis qu'au contraire, lorsque vous êtes en face d'un abîme, vous ne pouvez pas vous asseoir. Et quand vous êtes porté par le haut, non plus. C'est très, très contre la définition, hein, Heidegger. C'est très, très contre la définition. Ça, c'est contre tout cet aspect scolastique qui définit. C'est contre le... Oui, on peut le dire, parce que c'est la grande opposition qu'il fait, c'est justement les étangs, les définis, l'être, ça ne se définit pas. Alors, il faut tout penser par rapport à l'être. Autrement, on n'est pas philosophe. Donc, parler, la parole, il faut voir le rapport parole et être. C'est pour ça qu'il dit que c'est pratiquement, c'est le point de vue de l'être de l'homme. Ça déploie l'être de l'homme. Penser en suivant la parole, cela veut dire parvenir jusqu'au parler qu'est la parole, et d'une manière telle qu'il parvienne en propre et ait lieu comme cela qui accorde séjour à l'existence des mortels. Que veut dire parler ? L'opinion courante, statue. Donc l'opinion courante se tient aux étangs. L'opinion courante, un mépris souverain. L'opinion courante, statue. Parler, c'est la mise en action des organes de la phonation et de l'audition. Oui, définition scientifique du parler. Donc ça, ça ne signifie rien du tout. C'est l'étang. L'être. Parler est l'expression sonore et la communication des émotions et fluctuations intimes de l'homme. Ces dernières sont accompagnées de pensées. Caractériser ainsi la parole prend comme allant de soi trois présuppositions. Donc alors il va faire la critique à la manière de Socrate. D'abord, et avant tout, parler, c'est exprimer. Rien de plus courant que la représentation de la parole comme extériorisation. Elle présuppose, dès l'abord, l'idée d'un intérieur qui s'extériorise. Vous voyez bien, je m'extériorise, je vous dis ce que je pense. Quand je pense mon intérieur. Donc c'est extériorisé. Elle présuppose dès l'abord l'idée d'un intérieur qui s'extériorise. Faire de la parole une extériorisation, c'est justement rester à l'extérieur. D'autant plus qu'on explique l'extériorisation en renvoyant à un domaine d'intimité. L'extériorisation est relative à l'intériorité. Donc je ne peux pas expliquer la parole de cette manière-là, parce que de cette manière-là, je ne l'explique pas autre chose. Donc je donne un fondement à la parole. En donnant un fondement à la parole, je ne saisis plus la parole pour elle-même. Ensuite, parler passe pour une activité de l'homme. Il faut donc logiquement dire, c'est l'homme qui parle, parlant chaque fois une langue particulière. Nous ne pourrions dès lors, plus dire, c'est la parole qui parle. Car cela voudrait dire, c'est la parole qui fait l'homme, qui le rend homme. Dans une telle pensée, l'homme serait un produit de la parole. Enfin, l'expression dont l'homme est l'agent représente et expose le réel et l'irréel. On sait depuis longtemps que ces caractéristiques ne suffisent pas à délimiter la parole en ce qu'elle est. Quand on l'arrête pourtant à l'expression, on cherche à la déterminer de plus loin en intégrant l'expression, entendue comme activité parmi d'autres. Donc en intégrant l'expression à l'économie générale des performations par lesquelles l'homme se produit lui-même. Devant cette assimilation de la parole à une activité seulement humaine, d'autres soulignent, au contraire, que le verbe de la parole est d'origine divine. Le début du prologue de l'Évangile, selon saint Jean, nous enseigne que le verbe était à l'origine avec Dieu. pas ça, c'est très intéressant. Tout l'ontologisme qui est présent. On ne peut pas dire ça, c'est la foi. Non, non. Je le prends comme une parole. Mais on ne cherche pas à libérer des entraves de l'explication logique et rationnelle la seule question de l'origine. Ah. Ça, c'est sa méthode. Vous cherchez la naissance de la justice. Vous cherchez la naissance de la parole. Et tant que vous n'avez pas saisi la naissance de la parole, la génésis de la parole, vous ne savez pas ce que c'est. Sauf que, je crois, cette petite parole est très très importante. Mais on ne recherche pas à libérer des entraves de l'explication logique et rationnelle. Les explications logiques et rationnelles, c'est la science. C'est au niveau des étangs, c'est descriptif. Mais on ne cherche pas à libérer des entraves de l'explication logique et rationnelle la seule question de l'origine. On écarte aussi les bornes d'une description seulement logique de la parole, au lieu de caractériser exclusivement les significations à partir des concepts. On fait passer au premier plan le côté image et symbolique de la parole. Ainsi, l'on fait donner la biologie et l'anthropologie philosophique, la sociologie et la psychopathologie, la théologie et la poétologie, pour décrire et expliquer de manière plus compréhensible des phénomènes linguistiques. C'est le gros pavé en plein de la mare. Tous les philologues, on voit très bien surtout en Allemagne, tous les philologues qui ne cessent de parler autour de la parole sans savoir ce que c'est que la parole. Alors ils donnent toutes les règles possibles et ils ne savent pas ce que c'est que la parole. Ce faisant, on réfère pourtant d'avance tout énoncé possible à la manière depuis longtemps canonique dont s'est manifestée la parole. On achève ainsi de consolider ce qu'il y a déjà arrêté dans la prise en vue de la parole en son entier. De là vient que la représentation de la parole, qu'elle soit grammaticale ou logique, philologique et linguistique, est restée la même depuis 2500 ans, bien que les connaissances sur la langue n'aient cessé de se multiplier, de se modifier. On pourrait même avancer ce fait comme preuve de la justesse inébranlable des représentations cardinales du langage. Personne aussi ne se risquera à qualifier d'inexact ou même à rejeter comme inutile la détermination qui caractérise la parole comme extériorisation sonore de mouvements psychiques intérieurs, donc les pâtés animés, les pâtés de l'âme, comme activité humaine, comme exposition symbolique et conceptuelle. Il connaît très bien toute la position et toutes les positions. Aucune de ces positions, c'est ça que ça veut dire, aucune de ces positions avant Heidegger n'a regardé la parole pour la parole. C'est très très violent. C'est digne de certains qui disent « Je n'étais influencé par personne et ce que je dis est absolument inédit et personne ne l'a dit avant. » C'est ça que ça veut dire. Je n'ai pas dit tout ce qui a été dit avant. Non, non, non. Il n'y a qu'une seule chose. C'est très poétique, vous voyez ça? C'est très poétique. C'est très poétique parce que le poète, c'est Mallarmé qui dit ça, hein, le poète cherche toujours à nier tout ce qui était dit avant lui. Pour ce qu'il dit, apparaissent à partir de rien. Il y a cette nostalgie de la création. Et Heidegger textuellement le dit, hein. Il y a la nostalgie de la création ex nihilo. Il emploie l'expression, il sait ce que c'est. Donc la philosophie et tout ce qui est philosophique doit être à partir de rien, donc à partir de l'abîme. sans fondement. Parce que le fondement, c'est justement quelque chose. C'est très curieux. Hein. C'est un procédé de pensée qui est très, très curieux. D'essayer de comprendre. Alors ça, c'est, je crois, à penser. Cette structure de pensée provient, n'oublions jamais, il a été élève de Husserl et il s'est séparé de lui. Redécouvrir le réel au-delà de l'intentionnel. C'est pour ça qu'il y a une telle fureur du concept des parties de l'âme. Parce que là, on est dans l'ordre intentionnel. Le concept est une forme intentionnelle. Et toute la phénoménologie est dans l'intentionnalité. Alors, il brise avec ça pour découvrir le réel. Et Merleau-Ponty dira l'être sauvage. C'est-à-dire l'être avant qu'il soit abîmé par la logique. L'être est terriblement abîmé par la logique. L'être est terriblement abîmé par le rationnel, par nos définitions. Il est abîmé par ça. Et donc, il faut le redécouvrir à l'état pur. Eh bien, ici, vous voyez bien, c'est ça, au fond. Alors, c'est très beau, c'est très très beau de saisir la parole à l'état pur, mais qu'est-ce que c'est? Alors, vous allez voir. La parole est parlante. Qu'en est-il de son parler? Où trouver un tel parler? Ne serait-ce pas là où était? Ne serait-ce pas là où a été parlé? Là, en effet, parler s'est accompli. Où a été parlé, parler ne cesse pas. Parler, parler reste à l'abri. Où a été parlé, la parole rassemble la manière dont elle continue de se déployer. Et cela qui continue de se déployer à partir d'elle, le perpétuel de son déploiement. Son être. Le perpétuel de son déploiement, son être. C'est ça qu'il cherche. Alors, le perpétuel de son déploiement. Mais ordinairement et trop souvent, ce qui a été parlé ne nous rencontre que comme ce qu'il y a de passé découlé dans une parole. On retombe sur le passé. Il faut saisir ce qu'il y a d'éternel. C'est pour ça son être qui est au-dessus de tout le passé. Si par conséquent, il nous faut chercher de le parler de la parole. Donc si par conséquent, il nous faut chercher le parler de la parole où a été parlé, nous ferons bien. Au lieu de prendre au hasard n'importe quel parler, ceci est aussi très intéressant, le primat de la causalité exemplaire, hein, vous allez voir, tout à fait Platon, ça. Très curieux comme structure de pensée, c'est très très Platon. C'est dit en style moderne, c'est dit à la place d'être en face des sophistes, c'est dit face à la phénoménologie, mais c'est la même chose, hein. Saisir l'être éternel. Donc, au lieu de prendre au hasard n'importe quel parler, au contraire, de trouver quelque chose où soit purement parlé. La soif de haplos, hein, le haplos, simplement, le parler pur, à l'état pur, le parler à l'état pur est tel qu'en lui, la perfection de parler, celle qui sied au parler, de par elle-même devient achèvement en initial. L'éternité, l'achèvement en initial. Le parler à l'état pur est le poème. Donc c'est le parler du poète. Le parler à l'état pur, c'est le poème. Alors vous voyez cette chose qui me semble alors très importante à saisir. Le parler à l'état pur, c'est le poème. Se tient par lui-même. Et vous pouvez dire petite lettre, grande lettre. Vous voyez bien. La justice, petite lettre, la justice, grande lettre. Le parler en petite lettre, c'est quand je vous parle. Mais quand vous regardez un poème, c'est le parler en grandes lettres. Et celui-là, il est éternel. C'est la cause exemplaire. C'est ce qui va donner la signification à tout le reste. Or, le poème, justement, il a sa propre structure. Et alors, vous savez ce que c'est que le parler. Le poème, vous n'avez pas l'expliqué par le poète. Ça m'est bien égal, il le dit textuellement. Ça m'est bien égal de savoir si ce poème vient de tel ou tel. Ça, c'est de l'historique. C'est le poème que je regarde. Et je le regarde en lui-même. Et je le regarde pour lui-même. La parole, je la regarde pour elle-même. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça ne signifie rien. C'est donné. Vous le recevez comme poème. Voilà. Donc, le poème. Laissons pour l'instant cette affirmation à sa nudité. Nous en avons le droit, à condition de réussir à entendre dans un poème, du parler à l'état pur. Alors, vous allez entendre du parler à l'état pur. Quand vous êtes en face du poème. C'est beau, c'est très très beau. Placez-vous du côté de la beauté, et alors ça va très bien. Mais à quel poème demanderons-nous de s'adresser à nous ? Ici, nous sommes réduits au choix. Il est pourtant préservé de l'arbitraire. Par quoi ? Par cela qui déjà se pense et se destine à nous comme propre déploiement de la pensée aussitôt que nous pensons en suivant comment parle la parole elle-même. Suivant ce lien, obéissons comme parler à l'état pur un poème qui, plus que d'autres, peut, dans nos premiers pas, nous aider à éprouver ce qui, dans le lieu au déploiement propre de la parole, lit et relie. Écoutons ce parler. Le poème porte le titre « Un soir d'hiver ». Alors, vous allez maintenant entrer dans le poème et comprendre ce que c'est que le parler à l'état pur. Pas besoin d'autre chose. Hein. Parce que toutes les analyses, c'est la logique, c'est le rationnel. Un soir d'hiver, quand il neige à la fenêtre, il faudra le lire en allemand, évidemment. Quand il neige à la fenêtre, que longuement sonne la cloche du soir. Pour beaucoup, la table est mise et la maison est bien pourvue. Plus d'un qui est en voyage arrive à la porte sur d'obscurs sentiers. D'or fleuri l'arbre des grâces, né de la terre et de sa sève fraîche. Voyageur entre paisiblement. La douleur pétrifia le seuil. Là resplendit en clarté pure sur la table pain et vin. Vous voyez, un soir d'hiver. Ce poème est de George Crank. Qu'il en soit l'auteur, n'a aucune importance. C'est ça qu'il faut saisir. Hein. Causalité efficiente, hein. Qu'une, non, le poème. Et alors, avec tout ce qu'il a dit avant, on est monté jusque le parler pur. C'est très beau, hein. Il y a quelque chose de très très beau qu'il faut saisir. Et redonner, redécouvrir, on est tellement habitué, la parole... On en use pour tout, c'est la canalisation. Alors, retrouvons la source. Il faut retrouver la source. C'est ça le point de vue de... Ce point de vue-là, il est très éducateur comme Platon. C'est éducateur pour nous obliger de penser. On parle tout le temps sans penser. Ben non, non. Impossible. C'est plus parler. Aussi bien ici que partout où un poème est superbement réussi. La grande réussite supporte même que puisse être reniée personne et nom de poète. Le poème est formé à tout. Donc c'est l'analyse de la poète. Je reviendrai encore un instant là-dessus, la fois prochaine. Il y a un passage intéressant, je voulais simplement arriver à ça, parce que je crois que c'était très important. Ça fait comprendre, à travers la parole, ça fait comprendre tout Heidegger. Et c'est ça qui est intéressant, il faut le saisir. Et je crois que c'est par la parole qu'on le saisit mieux. Vous voyez ? Parce que c'est un homme qui a le sens de la parole. C'est ça, on ne peut pas le nier. C'est un homme qui a le sens de la parole. Qui a le sens, j'allais dire, plus le sens de la parole que le sens de la pensée. Parce qu'il est plus poète que philosophe.